Une méditation sur la signification spirituelle des miracles de Jésus. Et je vous invite dans Matthieu 14 pour parler ensemble de la multiplication des pains et des poissons. Matthieu 14. On va lire au verset 12. Parce que parfois, on a du mal à réaliser dans quel contexte le Seigneur Jésus a accompli la multiplication des pains et des poissons. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Jean vient d'être décapité. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Mais la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Moi, je ne crois pas que je vais faire mentir la Bible, de toute façon, vous savez que ce n'est pas mon genre. Mais j'ose penser que s'il avait fallu compter les femmes et les enfants, ce chiffre de 5 000, on pouvait facilement le multiplier par 2. Vous savez, je me suis déjà trouvé devant de grands auditoires, mais alors devant 10 000 personnes, au minimum, je ne sais pas si on peut réaliser ce que cela représente. Jésus, tout en étant le Fils de Dieu, était parfaitement homme. Il y avait en lui cette double nature. Et le Seigneur Jésus n'était pas quelqu'un d'insensible. Souvenez-vous quand son ami Lazare est mort, alors qu'il savait très bien qu'il allait le ressusciter. Mais c'est dans ce contexte que nous avons le verset le plus court de la Bible, où il nous est dit que Jésus pleura. Ça nous montre que bien que si on a un qui croyait dans la résurrection, c'était bien Jésus, puisqu'il était lui-même capable de ressusciter les morts. Mais ça nous montre, frères et sœurs, que Jésus, c'était vraiment quelqu'un de très sensible. Parce que quand il s'est retrouvé dans ce contexte de deuil avec Marthe avec Marie qui pleurait, etc., bien la Bible nous dit Jésus pleura. Et quand Jésus apprend la nouvelle de l'assassinat de Jean-Baptiste, la Bible nous dit que quand Jésus a entendu cette nouvelle, il a ressenti le besoin d'être un peu seul. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça nous montre la véritable humanité de Jésus. Mais voilà, la foule l'a vu partir. Et en fin de compte, la foule a suivi le bateau. Et quand le Seigneur Jésus va accoster, cherchant un moment où il va pouvoir être un peu seul, eh bien, la foule est là. Mais quand je dis la foule est là, là, il y a la foule. C'est, je pense que vous serez d'accord avec moi, de toute façon, bon, les chiffres, hein, c'est pas, on se dit, mais Seigneur, alors que toi-même, on sent que Jésus a besoin de récupérer de cette nouvelle, 10 000 personnes sont là devant lui. Et la parole de Dieu nous montre que quand il va voir ces gens, il va être ému de compassion pour eux. Et, parce que nous, on est toujours branchés multiplication des pains, mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant de multiplier les pains pour ces environ 10 000 personnes, Jésus a guéri les malades. Je ne crois pas que la foule était malade. Enfin, vous savez bien pourquoi les gens suivaient Jésus, n'est-ce pas? Donc, j'ose penser que Jésus a passé sa journée à guérir tous ces gens qui venaient à lui et qui étaient malades. Vous savez, frères et sœurs, il y a là une leçon spirituelle pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Quand on est au service de Dieu, on est parfois touché personnellement par des situations qui sont des situations difficiles. On peut être touché personnellement par le deuil de quelqu'un. Et c'est normal d'être touché. Mais quand on veut servir le Seigneur, il faut apprendre à faire passer les besoins des autres avant les siens. Et comme Paul pouvait le dire, il disait qu'il ne faisait aucun cas de sa vie. Et quand on veut servir le Seigneur, les intérêts des âmes, l'intérêt de l'Église dépasse nos intérêts personnels. Et un serviteur de Dieu, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier ce qui lui est personnel pour le bien des âmes et pour le bien de l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais moi, je comprends Jésus qui avait en face de lui toutes ses âmes. Bien sûr, Jésus était triste de la nouvelle qui vient de lui arriver concernant l'assassinat de Jean-Baptiste. Mais en même temps, en face de lui, Jésus a ces gens qui sont perdus. Jésus a ces gens qui sont malades. Jésus a ces gens qui viennent à lui. Et Jésus ne les renvoie pas. Et voyez-vous, mes chers frères et sœurs, il est là, notre Seigneur. Même personnellement touché, affecté par le décès de Jean-Baptiste. Et permettez-moi de souligner dans quelles conditions, vous le savez. Jean-Baptiste va mourir, même si ce n'est pas mon propos ce soir. Jésus va considérer les besoins de cette foule comme étant supérieurs à tout le reste. Voyez-vous, frères et sœurs, quand on veut servir le Seigneur, ben, il y a une chose que le Seigneur va nous apprendre, c'est que les âmes, l'Église, c'est plus important que tout le reste. C'est plus important même que notre personne, tout ce qui peut nous toucher personnellement. Alors, moi c'est Gilles, vous me connaissez. Je me suis dit, punaise quand même. Imaginez Jésus qui va prêcher. Dehors. Admettons, 10 000 personnes. Pas de siège rouge. Pas de sono. Hein? Pas de sono. Rien de tout ça. Est-ce que ça empêchait Jésus de s'occuper de cette foule? Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, moi je bénis Dieu pour le confort qui est le nôtre, mais quand aujourd'hui on voudrait me faire croire que pour évangéliser, et on a besoin de ceci, et on a besoin de ceci, on a besoin de cela, moi je crois qu'on a besoin d'une voix. Et les gens ont besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et je me dis, Seigneur, c'était quand même plus simple à ton époque, l'Évangile. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on a eu le don de compliquer, mais de compliquer les choses. Si seulement les gens, aujourd'hui encore, pouvaient venir à Jésus pour être bénis. Si seulement les gens pouvaient encore venir à Jésus aujourd'hui pour l'entendre. Parce que pourquoi est-ce que les gens venaient à Jésus? C'était pour être béni, c'était pour être guéri, et c'était pour l'entendre. C'était pour l'entendre. Je dis, Seigneur, apprends-nous à retrouver cette simplicité et à avoir cette foi dans ta parole. Cette parole qui est suffisante pour les besoins de la foule. Alors Jésus est là. Et quand on lit tout ce récit biblique, on a vraiment l'impression que bien, le Seigneur Jésus n'est pas dépassé par les événements, que Jésus gère très bien la situation, mais alors les disciples, alors là, les disciples, mais ils sont complètement paumés. Ils sont en train de regarder cette foule, et je vous promets, 10 000 personnes, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Ils regardent à droite, à gauche, en haut. Ils disent, mais comment on va gérer tout ça? Comment on va faire alors? Vous savez, c'est pas compliqué, ils regardaient pas leur montre, mais tout à coup, il a commencé à faire sombre. Et peut-être certains au milieu de nous ont voyagé, mais quelque chose, moi, m'a toujours surpris, c'est que quand vous avez passé un certain cap, la nuit ne tombe pas comme par chez nous. Chez nous, la nuit, on la sent venir. Ça commence par s'assombrir, etc., etc. Alors bien sûr, bon, quand c'est l'été, c'est encore plus long, mais la nuit, vous la sentez venir. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes en Israël, quand vous êtes en Asie, elle tombe en 5 minutes. Vous regardez à droite, il fait jour. Le temps que vous ayez une petite conversation avec quelqu'un, vous retournez la tête et il fait nuit noire. C'est impressionnant, hein? Et les disciples, ils sont là, ils disent, mais ça y est, comment on va faire? Comment on va faire dans le noir avec tous ces gens? Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Vous pouviez toujours demander à quelqu'un de sortir sa pile électrique. On est bien d'accord? Ça n'existait pas. Donc, mettez-vous à la place des disciples qui sont là. Et moi, je pense que parmi les disciples, il y en a qui devaient avoir un bon appétit. Et qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a dû commencer à sentir chanter son estomac, je ne sais pas. Puis il s'est dit, oh là là, il va falloir manger. Mais si lui, il avait faim, c'était pas seulement l'heure pour lui tout seul. C'était l'heure aussi, mais pour la foule. Et là, frères et sœurs, une fois de plus, vous avez une grande leçon spirituelle, une grande vision spirituelle. C'est la manière avec laquelle les hommes voient la situation et la manière avec laquelle le Seigneur, lui, voit la situation. L'homme, dans sa façon de voir, c'est très empreint de logique, de déduction. La façon de voir du Seigneur, elle est spirituelle. Elle est marquée par la foi. Et vous et moi, nous le savons, elle est marquée par le miraculeux. Alors, la façon de voir du Seigneur Jésus, bien sûr, elle est spirituelle. Enfin, j'ai quand même, si vous vous mettez un petit peu à la place des disciples et quand vous entendez là, les paroles de Jésus, j'ose quand même dire que c'est déconcertant. Parce que les disciples viennent voir le Seigneur Jésus en disant, Seigneur, cette foule à la fin, bon, ça veut peut-être dire qu'eux aussi, hein. Seigneur, écoute, nous, on ne peut rien faire. Renvoie-les dans les villages aux alentours qui se débrouillent pour trouver quelque chose à manger. Jésus aurait pu dire d'accord. Alors la réponse de Jésus, je ne sais pas, imaginez-vous si c'est à vous que ça arrivait, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Moi j'ai l'impression que les gars, ils ont dû se regarder les uns les autres, ou ils ont regardé leurs pieds, ou ils ont regardé le ciel, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais donnez-leur vous-même à manger. Et là, ça devait marcher là-dedans, hein. Est-ce que ça vous arrive aussi des fois que ça marche là-dedans? Oui ou non? Parce qu'on ne comprend pas toujours ce que Jésus dit. On ne comprend pas toujours ce que Jésus demande, ce que Jésus veut. Donnez-leur vous-même à manger. Et moi, je me mets à la place des disciples. Enfin, moi, je pense que j'aurais pas été plus grand qu'eux et j'aurais raisonné comme eux. J'aurais dit, mais Seigneur, on n'a rien. Quand tu nous envoies, tu nous demandes de rien prendre. Il faut savoir ce que tu veux, Seigneur. Écoute, tu nous dis qu'il ne faut même pas qu'on emmène de chaussures, tu nous dis qu'il ne faut pas qu'on emmène de sacs, qu'on emmène de bâtons, tu nous envoies deux par deux comme ça, en disant surtout vous prenez rien. On est parti sans rien. Mais maintenant, on n'a rien et tu nous demandes de les nourrir. Seigneur, on fait comment? Parce que Seigneur, d'un côté, tu nous dis de rien prendre et de l'autre côté, tu nous demandes de les nourrir. Alors bien sûr, si vous restez dans le domaine de la logique de l'homme, là, vous êtes complètement perdu. Et moi, je me mets à la place des disciples. Et... Alors, on ne va pas dire qu'ils n'ont rien. Mais bon, ils ont bien trouvé un gamin qui est venu avec son casse-croûte de l'époque. Vous êtes au bord de l'eau, hein. Les gens vivent de la pêche. Donc, sa mère lui a fait un pain traditionnel là-bas, vous savez, qu'on cuit sur une pierre, là, donc c'est une espèce de grande galette plate, là, qu'on déchire, voilà, puis il va manger ça avec... vous savez, quand on nous dit des poissons, je serais surpris que la mère, elle lui ait mis deux saumons dans son panier. Ouais, c'est les poissons qu'on a sur le bord, des petits poissons, là, etc. Donc, voilà, le gamin, il mange ça comme ça, avec ses doigts, hop, voilà ce qu'ils ont. Et moi, je me mets encore à la place des disciples. Mais Seigneur, on va couper ça en 5000 morceaux? Mais les gens, ils vont avoir quoi? C'est comme ça que réagissent les hommes. Faut, faut, Il faut se mettre à leur place, bien sûr, ça nous fait sourire, mais je pense que si on avait été à leur place et que c'est à nous que Jésus avait dit ces choses-là, on aurait certainement été très embêtés. La foule, elle est là, avec ses besoins. Quand les gens ont été malades, voilà, Jésus, il n'a rien demandé aux disciples. Il les a guéris, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, ces gens sont en bonne santé, ils ont faim. C'est un signe de bonne santé, il paraît. Là, il faut les nourrir. Et là, Jésus va dire, allez les gars, allez-y, donnez-leur à manger. Vous savez, ces 5 pains et ces 2 poissons, tant qu'ils sont dans les mains des disciples, on ne peut rien faire avec. Vous allez nourrir un gamin et c'est son casse-croûte. Mais quand vous mettez ces 5 pains et ces 2 poissons dans les mains du Seigneur Jésus, on met ces 5 pains et ces 2 poissons dans les mains du Créateur. Parce que je vous rappelle que Jésus a créé le monde. La Bible nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et quand, dans le livre de la Genèse, sans le faire exprès, je vais répondre à une de tes questions, Sophie, il y a un pluriel, il y a un « nous », c'est parce qu'en fin de compte, le terme hébreu qui est utilisé, c'est « Elohim », c'est-à-dire Dieu au pluriel, non pas qu'il y ait plusieurs dieux, mais vous avez les 3 personnes divines en même temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui fait que par sa parole, Dieu le Père a créé les cieux et la terre. La Bible nous dit en ce qui concerne Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Et en ce qui concerne le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il était là puisque le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dans ce qui fait que vous avez les 3 personnes qui composent la Trinité qui sont là. Et donc, on va remettre entre les mains du Seigneur Jésus les poissons qu'il a créés. On va lui remettre le pain qui symbolise le fruit de la terre, mais c'est le Seigneur qui a créé le blé, qui a créé les fruits de la terre. Et si par sa parole, il a été capable de créer le monde entier, de créer les arbres, de créer les champs, de créer les semences, de créer les animaux, ben, il me semble que dans les lacs, dans la mer, il y a plus de 2 poissons. Alors quand vous mettez ça dans les mains d'un homme, cet homme ne peut rien faire. Et ça, c'est une leçon spirituelle pour nous, que Jésus d'ailleurs rappellera, vous le savez, dans la parabole du cep et des sarments, et Jésus dira à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez venir avec une sono, vous pouvez venir avec des chaises, vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez, la foule, vous ne pourrez pas la nourrir. Parce qu'en fait, vous avez quoi? Rien. Mais le Seigneur est le Créateur. Et si nous, nous ne pouvons rien, mes chers frères et sœurs, lui, il peut tout. Le drame dans lequel l'Église est tombée, le piège dans lequel l'Église est tombée, c'est plutôt que de compter sur Jésus, l'Église a compté sur ses moyens, sur ses méthodes, sur cette façon de faire, et on va faire ceci, et on va faire cela, et on va faire comme cela, en oubliant, en ne réalisant pas ou en ne réalisant plus, qu'on peut déployer tous les efforts que l'on veut. Nous, avec toutes nos techniques, nos méthodes, tout ce qu'on veut, nous ne pouvons rien. Mais Jésus, lui, il peut tout. Alors, nous voulons faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, de témoigner, c'est-à-dire de raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça, témoigner, hein, faut pas l'oublier. Et moi, je bénis Dieu. Dimanche dernier, je sentais dans mon cœur que, pas si vous pouvez comprendre les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, mais les réunions ne se ressemblent pas les unes aux autres. Quand j'ai préparé mon message, je ne savais pas qui viendrait à la réunion. Mais... Et il y avait un monsieur qui était là pour la toute première fois dimanche après-midi. Comme beaucoup de nouveaux, il s'est assis au dernier rang, à la dernière chaise. Même pas qui c'était. Mais à la fin de la réunion, ça a été plus fort que lui, il est venu sur le devant. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je ne sais pas qui vous êtes. Il m'a dit, cet après-midi, ce que vous avez dit, c'était toute ma vie. On m'a tout volé. On m'a tout pris. Et il m'a dit, vous ne me connaissez pas, mais il m'a dit, tout ce que vous avez dit, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Ça, vous pouvez avoir un beau prédicateur, un beau parleur, ça ne remplacera jamais l'inspiration du Saint-Esprit. Même dans une parole toute simple, le Seigneur savait que cet homme viendrait ici et il fallait qu'il soit marqué par la parole de Dieu. Et il a été marqué par la parole de Dieu. Ça, frères et sœurs, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je prie, vous me connaissez, je dis, mais Seigneur, ce qu'il faut, c'est que nous les serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas qu'on soit des grands prédicateurs, des orateurs avec nos noms sur des affiches, tout ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est quand on prêche, le Saint-Esprit soit avec nous, c'est qu'on soit inspiré pour que les âmes, même s'il n'y en a qu'une, même s'il n'y a qu'un poisson, après tout, si on en pêche un tous les dimanches après-midi, hein? On est d'accord? Eh oui, mes chers frères et sœurs. Et moi, je dis, Seigneur, voilà, c'est pas compliqué. C'est une question de foi. Seigneur, quand c'est toi qui fais, quand c'est toi qui agis, quand c'est ta parole, c'est la parole du Créateur, c'est la parole du Sauveur, c'est la parole de celui qui sait, de celui qui connaît. Et alors, mes chers frères et sœurs, bien, tout change. Tout change. Entre les mains des disciples, les 5 pains, les 2 poissons, ce sont restés 5 pains et 2 poissons. Mais le miracle va avoir lieu. L'extraordinaire de Dieu va se manifester. Ensuite, autre leçon spirituelle. L'autorité de Jésus. Parce que la Bible me dit qu'il va faire asseoir la foule. Il ne va pas en faire asseoir 4 ou 5. Vous êtes d'accord? Il va en faire asseoir 10 000. Au moins 5 000, mais... me dit quand même, ça c'est fort. Parce que j'ai quand même envie de vous dire, il n'y a pas plus indiscipliné que les hommes. Mon chien, parfois, il obéit mieux que les hommes. Parce que quand je lui dis assieds-toi ou je lui dis coucher, il s'assoit ou il se couche. Des fois, il y en a, je les appelle, il faut que je les appelle 10 coups avant qu'ils viennent. Sauf quand c'est pour manger. Vous vous rendez compte, l'autorité du Seigneur Jésus? Alors on peut tergiverser, dire, ouais, les gens, ils avaient faim, etc. Frères et sœurs, on peut avoir de l'humour, mais il ne faut pas faire de blague avec la parole. Moi, ce que je vois là, c'est l'autorité du Seigneur Jésus sur ces gens qui sont là. Et ça me fait penser à l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un endroit où chacun fait ce qu'il veut. L'Église s'est organisée. Dans l'Église, il y a de la discipline. Dans l'Église, il y a une certaine obéissance. Et si on veut le miraculeux, il faut aussi de la discipline. Ah oui. Alors, ces gens vont s'asseoir. J'ai envie de dire, ça, c'est un miracle. Parce qu'il y en a un ou une qui peut dire, bah, pourquoi s'asseoir? Moi, j'ai envie de rester debout. Vous avez des gens qui sont comme ça, vous leur dites qu'il faut être assis, ils vont vouloir être debout. Vous avez des gens, vous leur dites, il faut se lever, ils vont vouloir s'asseoir. Hein, voilà. Mais c'est parce que c'est Jésus. Vous savez, frères et sœurs, alors ça peut faire l'objet encore d'une autre méditation, mais l'autorité spirituelle, c'est pas d'être un général de gendarmerie. Hein. L'autorité spirituelle, c'est quelque chose qui est en nous, que le Seigneur nous donne de vivre, et qui fait que j'allais presque dire, naturellement, les gens vont vous suivre. C'est pas, on est le chef et j'ai décidé que ça allait être comme ça. Et gare à celui qui fera pas comme ça. L'Église du Seigneur, ça marche pas comme ça. Vous savez, quand on est rempli de l'amour du Seigneur, quand vous aimez l'Église, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de le dire et de vous vendre. Hein. Paul disait, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Et quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui dire. Si vous l'aimez, la personne, elle va le savoir. C'est aussi simple que ça. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors voilà, tranquillement, les gens vont s'asseoir. Vous savez pourquoi il fallait qu'il soit assis? Mais il ne fallait pas qu'il y ait de bruit, il ne fallait pas qu'il y ait de bazar, parce que Jésus allait prier. Donc chez nous, c'est pareil. Avant de se mettre à table, on prie. Ah, j'ai entendu quelqu'un amène, pas très fort, ses petites sœurs lui font, mais vous avez dit amen. Mais pour prier, il ne faut pas qu'il y ait le bazar. Parce qu'on ne fait pas une prière comme ça pour faire une prière. On prie. Quand je dis on prie, je ne vous dis pas que vous faites une réunion de prière avant le repas. Hein. Non, prière. C'est sérieux. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va lever les yeux vers le ciel. Vous savez pourquoi il lève les yeux vers le ciel? Parce que tout vient de là-haut. Et en fin de compte, ce que vous avez dans votre assiette en bas, ça vient d'où? Oh, bah alors, celui, une fois de plus, qui est très logique, terre à terre, il va dire, ah, oh, bah oui, mais c'est quand même moi qui ai gagné les sous, c'est moi qui ai travaillé. Je dis, oui, mais enfin, qui c'est qui t'a donné le boulot? Il ne faut pas qu'on l'oublie aujourd'hui, vous savez, etc., etc. Donc, tout nous vient d'en haut. Et quand on a à manger dans son assiette, il ne faut pas oublier de lever les yeux là-haut et dire, merci Seigneur. N'est peut-être pas riche, mais ce que j'ai, Seigneur, ça vient de toi. Seigneur, j'ai à manger. Seigneur, j'ai un toit. Seigneur, j'ai chaud. Ah oui, béni soit Dieu pour cela. Et le Seigneur Jésus va lever les yeux vers le ciel. Il va rompre le pain et il va le donner aux disciples. Parce que ce que les disciples ne peuvent pas faire, c'est Jésus qui le fait. Mais ce que les disciples peuvent faire, Jésus ne le fait pas à leur place. Donc Jésus va accomplir le miracle, il va multiplier la nourriture, mais ce n'est pas Jésus qui va la distribuer, ce sont les disciples. Alors là, vous avez une vision extraordinaire. Une foule affamée qui va être nourrie par par le Seigneur Jésus. Mais Jésus, c'est le pain vivant descendu du ciel. Donc, il va remercier le ciel pour le pain, il va rompre le pain, et avec ce pain, il va nourrir la foule. Et le symbole spirituel est tellement fort. Et le travail des disciples va consister à prendre ce que le Seigneur Jésus leur confie et le distribuer à la foule. Ils prennent de ce qui est à Jésus pour l'apporter aux gens qui ont faim. Vous savez, c'est le symbole de quoi, ça ? Du Saint-Esprit, qui prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Et ça, ça nous montre quoi ? Qu'aujourd'hui, pour répondre aux besoins des gens, pour pouvoir communiquer aux gens ce qui vient de Jésus, eh bien, on a besoin du Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne vais quand même pas être désolé de vous prêcher la même chose tous les vendredis en prenant un miracle différent du Seigneur Jésus. Mais vous savez, si le Seigneur à chaque fois nous répète les mêmes choses, c'est qu'on a des choses à apprendre. Et mes chers frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, on peut toujours aller voir la foule. Mais il n'y a rien qui se... Il n'y a rien qui se passera. Si ça avait été en Normandie, au milieu de la foule, j'en entends un qui aurait dit « Vous n'avez pas de la mayonnaise ?» Non. Mais du pain et un morceau de poisson, quand on a faim, c'est suffisant. L'homme voudrait toujours rajouter quelque chose, hein ? Peut toujours penser qu'on pourrait faire mieux que Jésus. Frères et sœurs, est-ce que nous avons encore cette foi, cette confiance dans l'Évangile ? Croyez-vous que l'Évangile est encore suffisant pour amener les âmes au salut ? Moi, je le crois. Je crois que l'Évangile, la prédication de la croix, même si, aux yeux de certains, aujourd'hui, ça paraît une folie, même s'il y en a, et je vous le montrerai, qui se moquent de nous, dans les églises, parce qu'on prêche encore la croix, qu'on dénonce le péché, etc. Moi, je dis, Seigneur, c'est par ça que j'ai été sauvé. Ils peuvent toujours chanter, dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je continuerai à avoir confiance dans la parole de Dieu, dans ce qui vient de Jésus, dans ces choses simples, le message de la croix, l'œuvre du Saint-Esprit, le miraculeux de Jésus. Et pour moi, l'Évangile, c'est ça et c'est rien d'autre. Vous entendez ? Rien d'autre. Tout ce qu'on y ajoute ne vient pas de Dieu. D'abord, je vais vous dire un truc. Moi, je crois que ce soir-là, ils n'ont pas chanté de cantique. Parce que quand ils ont chanté, la Bible me le dit. Oui ou non ? Vous avez déjà lu ? Oui, ils sont au Mont des Oliviers après avoir chanté les cantiques, etc. Donc, ben on sait qu'ils ont chanté. Voilà, ils n'ont pas chanté. Ça n'a pas empêché les gens de recevoir de la part du Seigneur Jésus ce qu'ils avaient besoin de recevoir. On est bien d'accord ? Ce qui est indispensable, c'est ça. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si vous réalisez le travail qu'ont eu les disciples. Parce que quand ils sont revenus avec 12 corbeilles, ils étaient combien ? Oh, 12 ! Donc s'ils sont revenus avec 12 corbeilles, ils sont partis avec combien ? Ben, 12. Chacun une ? Et les gars, à 12, ils ont dû faire le tour de toute la foule. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous avez déjà eu « quand est-ce qu'on mange ?» Vous avez déjà entendu cette phrase-là quelquefois ?« Quand est-ce qu'on mange ?» Alors vous imaginez, les gars, ils commencent par le bas, vous en avez en haut, on vous parle des hommes déjà. Alors là, vous êtes chez les Juifs, hein, les hommes vont dire « et nous, on est servis en premier ». Vous avez des gens comme ça, etc. Puis de l'autre côté, vous avez les gamins qui braillent, etc. Enfin bon, c'est... Quel boulot ! Bon, j'ai envie de dire, c'était du bon travail. Hein. Bah, j'ai quand même l'impression que les gars, quand ils ont fini, ils ont dû dire, ouh ! Et quand ils sont rentrés, les paniers, ils étaient vides. Non ? Est-ce que vous savez pourquoi ils étaient pleins ? Vous savez pourquoi ils étaient pleins ? Parce qu'il fallait que les disciples y mangent aussi. Le disciple ne veut pas seulement nourrir les autres, béni soit Dieu qu'il le fasse, mais il a aussi ses besoins personnels. Et ses besoins personnels, le Seigneur ne les oublie pas quand il est capable de faire passer les besoins des autres avant les siens. Alors, je ne sais pas pour les disciples, mais moi, je crois que moi, j'avais plus faim, moi, après. Ah, peut-être pas vous, hein. Mais moi, je crois que j'aurais été rassasié après tout ça. C'était fini, j'aurais mangé que le soir ou le lendemain matin, puisqu'on était déjà le soir. Ben, tout le monde n'est pas comme moi. Et moi, je bénis Dieu. Parce que les disciples, ils vont prendre une leçon. Mais en même temps, le Seigneur ne les a pas oubliés. Amen. Puis quand je dis qu'il ne les a pas oubliés, à mon avis, dans le panier, il ne devait pas rester un bout de pain et un bout de poisson. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il est dit qu'ils sont revenus avec les paniers pleins des morceaux qui restaient. Béni soit Dieu. Parce que, vous savez, ça c'est profondément spirituel. En fait, quand on prend soin des autres, ben, le Seigneur, il prend soin de nous. Et moi, vous savez, ma vie en tant que serviteur de Dieu, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et avec le Seigneur, j'ai jamais manqué de rien. Vous pouvez demander aux miens, ils connaissent mon témoignage, mes parents le connaissent. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais l'argent, ça n'a jamais été une priorité pour moi. Jamais. J'ai toujours été là où le Seigneur voulait m'appeler. Moi, j'ai dit, l'argent, il appartient au Seigneur. Moi, je fais des prières spéciales. Hein. Je dis, Seigneur, tu te débrouilles avec ça. Hein. Moi, j'ai autre chose à m'occuper que de ça. Je dis, Seigneur, mes besoins, tu les connais, tu te débrouilles. Tu m'appelles là, j'y vais. Ça ne me regarde pas, ça te regarde toi. Et le Seigneur n'a jamais, jamais, jamais manqué. En fait, c'est un peu biblique. Parce que quand le Seigneur dit « recherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu », il dit aussi « le reste, ben, ça vous sera donné ben, ». Moi, je peux vous dire « le reste, le Seigneur me l'a donné ». Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Alors, moi, je me mets à la place des gens. Parce que, voilà, on a l'impression, mais est-ce que vous voulez bien vous mettre à la place de la foule ? Alors, ceux qui sont tout au fond, tout le monde n'a peut-être pas tout perçu, mais enfin, permettez-moi de vous dire, ceux qui sont sur le bord, ils ont vu la scène. Je dis, mais comment c'est possible ? Parce que moi, je suis convaincu que les gens, ils ont vu qu'il n'y avait que le gamin avec son panier, quoi. Hein, qu'ils sont pas venus, vous n'avez pas eu la camionnette de livraison de machin qui est arrivée pour tout le monde, hein ? Donc, vous savez, ce miracle-là, d'abord, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament, vous avez l'exemple de l'huile de la veuve, etc., qui ne s'est pas passé qu'une seule fois, d'abord, vous le savez, etc. Mais c'est une signification profondément, profondément biblique. Et la foule est là, et les gens... Alors, d'abord, les gens étaient contents parce qu'ils ont été guéris, les gens étaient contents parce qu'ils ont été nourris, Et les gens étaient subjugués par la personne du Seigneur Jésus parce que le miracle a eu lieu sous leurs yeux. Et là, il n'y avait pas un ou deux témoins. Vous imaginez la foule qui non seulement a été bénéficiaire, mais qui en plus était là pour attester du miracle. Qu'est-ce que vous voulez que les Juifs qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus puissent venir dire après ça? Ça fait tache d'huile, parce que les gens, ils ont quand même fini, je vous rassure, par rentrer chez eux. Mais ils n'étaient pas tous du même patelin. Ils venaient de partout. Et quand ils sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raconté ce qui s'est passé. Tu sais pas? Mais on était avec ce Jésus. Et toute la journée, on a vu des gens qui étaient malades, etc., à venir. Écoute, il les a tous guéris. Puis alors, le clou, c'est le soir. On avait tous faim, on était là, c'était immense, on n'avait rien à manger et tout. Et il a nourri tout le monde avec 5 pains et avec 2 poissons. Mais qui est cet homme-là, etc.? Et le miraculeux amène les âmes vers Jésus. Le miraculeux, frères et sœurs, la bénédiction, c'est ça qui suscite la curiosité. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que notre témoignage, c'est de raconter ce que le Seigneur a fait. Pour prêcher l'Évangile, le Seigneur a prévu des évangélistes. Mais pour amener les âmes à l'Évangile, le Seigneur a besoin de témoins. Il ne faut pas confondre les deux. Vous avez des gens, quand ils sont dans la rue, ils se prennent pour des évangélistes alors qu'ils sont des témoins. Raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Ça va exciter la curiosité des gens. Alors, il y en a qui vont se payer votre pomme, c'est normal, on est en Normandie. Hein? Mais il y en a d'autres. Ah, oh, tu crois? Oh, j'aime bien quand les gens disent ça. Tu dis, ah bah oui, pour sûr, je crois. Hein? Vous en avez qui ne viendront pas, mais vous en avez qui viendront. Peut-être qu'ils ne seront pas nombreux, mais vous savez, moi je me méfie des foules. Parce que le jour où Jésus est crucifié, ils sont où, les 10 000? Hein? On est d'accord? Vous savez bien quels sont ceux qui restent là, ce sont les fidèles parmi les fidèles. Moi, je vais vous dire, ça aussi, c'est une leçon pour aujourd'hui. Quand vous avez tous ceux qui courent après les foules et qui font tout pour les attirer, moi, j'ai envie de dire, faites attention aux foules. Parce qu'aujourd'hui, elles sont là. Mais demain, vous n'êtes pas sûr qu'elles soient là. Alors que ceux qui sont là pour Jésus, qui ont choisi Jésus, qui ont goûté à la bonté du Seigneur, qui ont été bénis par lui, qui ont été sauvés par lui, je vais vous dire, qu'on soit 10 à la Réunion ou qu'on soit 100, les gens, ils n'en ont rien à faire, ils viennent pour le Seigneur Jésus. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, frères et sœurs, je vais terminer pour ce soir. Et je vais aussi vous dire que le Seigneur Jésus est contre le gaspillage. Parce que Jésus a demandé que l'on emporte les morceaux qui restaient. Vous me connaissez, je ne vais pas venir vous faire une prédication écolo, hein. Mais le message, c'est que Jésus dit aux chrétiens, les restes, c'est bon. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est le Seigneur qui le montre. Ce que vous n'avez pas mangé aujourd'hui, eh bien, vous le finirez demain. Parce que quand le Seigneur nous donne quelque chose, ce n'est pas pour le gaspiller. C'est pas pour que ça finisse dans la poubelle. Donc voilà, je referme ma petite parenthèse. En conclusion, face à la foule qui a faim, Jésus est là. La puissance du Seigneur Jésus est à l'œuvre. Le miraculeux est en action. Et puis, il y a les disciples qui vont bénir cette foule au travers de ce que Jésus va leur confier. Et ce que Jésus leur confie leur permet de nourrir cette foule. Béni soit le Seigneur. Et si Jésus ne leur avait rien confié, ben ils n'auraient jamais pu les bénir. Ils n'auraient jamais pu les nourrir. Ça nous montre une fois de plus la compassion, l'amour de Jésus pour les âmes qui sont affamées. Ça nous montre l'abondance, la bénédiction du Seigneur. Il y en a pour chacun, même pour ceux qui servent. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de demander, ils n'ont pas besoin de pleurer. Jésus pourvoit, béni soit son saint nom. Et puis je termine en vous rappelant que ça a quand même commencé par un enfant. Parce que si l'enfant n'avait pas été là, ben, il n'y aurait pas eu les pains et il n'y aurait pas eu les poissons. Et là aussi, il y a une leçon spirituelle. Il demande que Jésus porte un intérêt tout particulier à l'enfant. L'enfant ne peut pas lui donner grand-chose, parce qu'un enfant, ça n'a rien. Et en plus, même ce qu'il a, c'est sa mère qui l'a donné. Ça me fait penser à l'école du dimanche, à l'offrande. Les enfants qui veulent mettre leurs pièces. Bon, on sait bien que ce n'est pas la leur. C'est les parents qui la donnent. Mais moi, j'ai vu les gamins réclamer. Je dis rien, je regarde, j'aime les gosses, vous savez. Mais je dis, ils ont envie de donner. Voyez-vous ? Ils ont envie de faire. Ils ont envie de donner. Puis je regarde ce gamin. Je lui dis, tu sais, c'est quand même par ton casse-croûte que toute la foule va être nourrie. Et quand je pense à ça, je pense à la colo. Et je dis, il faut s'occuper de ces gamins. Parce que si les gamins ne viennent pas à Jésus, je vais vous dire, un jour ou l'autre, ils vont venir à quelqu'un d'autre. Ils vont venir à quelqu'un d'autre. Alors je dis, Seigneur, comme les exemples de ta parole sont merveilleux, comme ils sont parlants, comme ils sont riches d'enseignements. Parce que là, on ne va pas beaucoup s'arrêter là-dessus. Et pourtant, la relation entre Jésus et l'enfant. Jésus va prendre ce que l'enfant lui apporte. Rassurez-vous, je ne rallonge pas, mais mettez-vous la réaction de l'adulte. Le gamin, il est là avec ses sympas, ses deux poissons. Gentiment même, hein. Le disciple peut lui dire, t'es gentil. Mais qui c'est que tu veux qu'on fasse avec ton casse-croûte? T'as vu, regarde les gens qui sont là. On ne va pas partager ton casse-croûte en 10 000, quoi. Vas-y, mange-le, mon gamin, t'es gentil, va. Non. Et ça me montre combien le Seigneur Jésus a un intérêt tout particulier, une relation toute particulière avec l'enfant. Alors, c'est le sujet d'une autre méditation, mais permettez-moi quand même, dans le contexte de notre méditation de ce soir, de vous dire, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de relever ça. Que le Seigneur vous bénisse. On termine par la prière.